Bonsoir, il est 20h, bienvenue pour votre presque mensuel Rock'n'Roll Diaries. Salut Fab.
Bonjour.
Comment ça va Fab?
Ça va très bien.
Alors tu as traversé mer, terre, océan pour venir jusqu'à nous aujourd'hui?
Voilà, non, moins que ça, j'ai juste traversé des départements enneigés.
C'est déjà ça quand même.
Eh oui.
C'est les joies du direct, on est obligé d'être là à 20h qu'il neige ou qu'il vente.
Eh oui, bonsoir Luc.
Bonsoir Ludo, bonsoir tout le monde.
Tu as traversé la rue toi?
Moi j'ai traversé les Piancourt.
Mais c'est déjà pas mal quand même.
C'est toute une aventure.
Alors Luc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
Aujourd'hui on va parler de plomb.
Tu veux dire que cette émission a du plomb dans l'aile?
Non, du plomb dans le ventre plutôt.
Listen young people, listen to me. Don't try to buy no home down in Washington D.C. Cause it's a bush boy town. It's a bush boy town. I got a bush boy blues on going on. Spreading it all around. Me and my sweet wife and Miss Barnacle run all over that town. Everywhere we go to people, they would turn us down, Lord, in a bush boy town. Ooh, it's a bush boy town. I got the bush boy blues, I'm gonna spread the news all around. Some white folks in Washington, they know just how. Some of colored man a nickel just to see him bow, Lord, in a bush boy town. Town. I got a wish for blues, I'm gonna spread the news all around. White Marty was standing up there. Heard a white man say, I don't want no Negroes up there. He was a bush boy man. Woo, living in a bush boy town. I got a bush boy blues, I'm gonna spreading it all around. This is the home of the brave, the land of the free. I don't want to be mistreated by no bourgeoisie, Lord, in a bush boy town. It's a bush boy town. I got a bush boy blues, I'm gonna spread the news all around.
Lead Belly, le ventre de plomb, Luc.
Exactement. Eddie William Leadbetter dit Lead Belly. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs Lead Belly, finalement, il y a plusieurs explications. Il y a beaucoup de légendes qui tournent autour de ce bluesman folk, chanteur folk américain, qui est né le 20 janvier 1888,
ou
le 21, ou le 23,
23
ou en 1885.
Voilà. Non, 9.
Ou 5.
Ou 5, ou 8.
Ou 8.
Voilà.
Voilà, ça commence bien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né, par contre, dans une petite bourgade de Louisiane qui s'appelle Mooringsport.
Comme souvent pour les bluesmen.
C'est souvent le cas.
Ouais, mais on verra, lui, il est, d'une certaine manière, il est plus folk. Donc,
exactement. Voilà. Il est plus folk que blues, même si.
Il est devenu blues quasi voilà. Par défaut.
Mmh. Exactement. Et gospel et beaucoup d'autres choses. Donc, il est né sur une plantation de Louisiane. Mais pour autant, ses parents, donc, qui s'appellent, je ne sais plus comment d'ailleurs, Wesley et Sally Brown, et Sally Leadbetter. Vont très vite migrer vers une terre agricole qu'ils exploitent eux-mêmes, puisque bon bah ils étaient ses parents étaient paysans. Eddie va avoir une sœur qui s'appelle Australia.
Ils n'étaient pas propriétaires.
Au début, ils ont acheté
un peu de terre, alors pas une grande terre. mais suffisamment de quoi faire vivre la famille de façon décente, en tout cas. Led Belly, il va, c'est pas le cliché du noir américain du sud qui est exploité, qui vit dans la misère. Finalement, il a une vie assez paisible avec toute sa famille. Il aide ses parents au champ dès qu'il en a la possibilité. Il y a sa sœur qui est avec eux. Mais on va voir que ça se gâte finalement, entre guillemets, assez vite. C'est-à-dire que tant qu'il travaille avec papa-maman au champ, ça se passe plutôt bien, mais assez rapidement, il va prendre une certaine indépendance.
Vers les 20 ans, je crois.
Parce qu'il a 12-13 ans, et à 12-13 ans, il commence un peu à découvrir ce qui se passe, non pas dans le monde, mais... Dans la bourgade d'à côté, il commence un peu à sortir, à écouter de la musique, à voir les filles. C'est un peu le début des aventures qui vont conduire Led Belly à avoir cette vie à la fois dissolue et légendaire qu'on va vous conter tout au long de cette émission. Il va devenir père à 15 ans.
Avec une fille qui est elle-même à 15 ans.
C'est-à-dire qu'à l'époque, les moyens de contraception, c'était pas trop ça. Hein.
C'était pas trop.
C'est vrai, mais bon, là, c'est plus dû à la vie dissolue, entre guillemets. En gros, il lui a fait un enfant, et après, il est un peu obligé de la marier, quoi. Mais, voilà. Enfin, de l'épouser. Mais après, pour évacuer, juste, tu parlais un peu des clichés, justement, du noir américain qui naît dans les plantations et tout. Il y a deux autres choses qui font qu'il est un peu hors des clichés, justement. C'est pas une famille nombreuse. Non. On a souvent les idées de, voilà. Là, ils sont que deux. Donc, il y a même des biographies qui omettent totalement de citer Australia.
Ouais.
Certains croient même qu'il est fils unique. Et ensuite, ses parents, il est issu d'un couple mixte. En fait, sa mère est une Indienne Cherokee.
Oui, exactement.
Donc,
oui.
Déjà, ça fait un croisement un peu, voilà, une Indienne Cherokee qui est chrétienne et qui va à l'église chanter du gospel. Donc, ça fait déjà un mélange.
Un peu détournant.
Il a pas l'étiquette dès le début noir américain qui va chanter du blues dans les plantations.
Hein. Et il est plutôt bon élève en plus à l'école. C'est pas, voilà, il va à l'école. Il est pas, c'est pas un mauvais garçon. C'est pas un petit délinquant. Voilà, c'est un garçon tout à fait normal qui vit avec ses parents. On a dit tout à l'heure qu'ils avaient acheté un peu de terrain. Ils ont quitté la Louisiane, ils sont allés au Texas pour ça. Et puis c'est là où il commence un peu à s'émanciper. Led Belly, on l'a dit tout à l'heure, à 15 ans, il est déjà à 12-13 ans, il commence un peu à aller à droite à gauche, voir ce qui se fait, à s'intéresser fortement à la musique. Très tôt, il va jouer de l'accordéon, en fait. Alors, je sais pas si c'est de l'accordéon.
Ton instrument préféré.
Ouais. Je sais pas.
J'ai vu ça sur les photos avec de l'accordéon.
C'est l'accordéon diatonique, ouais.
C'est ce qu'ils appellent l'accordéon de Louisiane, là. Mmh. C'est un accordéon un peu spécial. C'est son oncle qui va lui offrir ça, pour un de ses anniversaires. Il va commencer à faire de la musique comme ça. Très tôt, finalement, parce que il a une quinzaine d'années quand il décide, pour gagner sa vie et celle de sa famille, puisqu'il est maintenant soutien de famille, il va commencer à être musicien. C'est-à-dire qu'il va aller jouer un peu dans les balles, un peu essayer de gagner sa croûte à droite à gauche en jouant de la musique. Entre-temps, quand il faut aller faire des travaux au champ, il fait des travaux au champ. Il est visiblement, on le verra tout au long de sa vie, il n'est pas feignant à ce niveau-là. Il est réputé pour être un des plus gros transporteurs de balles de coton. Il a un travail remarquable.
Il a un gros physique aussi.
Il a un gros physique.
Certains diront que son surnom vient de là aussi, le côté.
Le côté mastoc, c'est un colosse. Hein, c'est une vraie force de la nature. Mais il a aussi des faiblesses, et notamment les deux principales qui sont les femmes et l'alcool. Et on verra que
ça entraîne quelques violences.
Ça entraînera quelques violences. On va peut-être écouter un nouveau morceau. Alors en ouverture, c'était Bourgeois Blues qu'on a entendu. Et là, on va s'écouter In New Orleans.
Voilà, qui tout le monde connaît, mais on vous en dira plus après pourquoi vous la connaissez, alors que finalement, ce titre-là ne vous dit rien. Thank you.
down in New Orleans. I saw the rising sun. I've been the run of a many poor boys and be your God for one. Way down in New Orleans, I'll call the rising sun. I've been the run of a many poor boys and be your God for one. I'm gonna tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun that old house and you only take all the rising sun. I'm gonna tell my baby sister, please don't do like I have done. Please shun that old house and you only take all the rising sun. Go tell her now. Go ahead and tell her. Cause my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising sun. I'm going back to New Orleans. Cause my race is almost run. I'm going back to spend the rest of my life beneath the rising sun. Going back down there. Yeah. Yeah. Go back. Yeah. Yeah.
Et voilà pour ce morceau In New Orleans.
Et voilà, In New Orleans, que tout le monde connaît sous le nom de House of the Rising Sun, ou en France, voilà. Le Pénitencier, ce qui n'a rien à voir, vu que, rappelons-le, House of the Rising Sun, c'est un bordel.
C'est exactement. Donc,
voilà. En fait, comme on le verra après, Led Belly a repris beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique traditionnelle à une époque où elle n'était pas enregistrée, où elle se... voilà, elle se transmettait de guitare en guitare et lui les a entre guillemets popularisées avant qu'elles soient enregistrées un peu proprement par des artistes un peu plus reconnus.
À tel point que quand on fait le bilan de l'œuvre de Led Belly, on ne sait pas trop ce que lui a vraiment écrit, ce qu'il a repris, ce qu'il a inventé. Enfin,
c'est tentaculaire.
Il y a plus de 5, je crois que c'est plus de 500 morceaux signés ou reconnus en tant que tel de Led Belly. C'est un peu compliqué.
On en était resté au domaine des femmes et de l'alcool qui entraînait moult violences. Alors, violence à une époque où, en plus, être noir dans le Sud, ça veut dire prison tout de suite, hein, quel que soit le type de violence.
En prison avec voilà.
Même quand on reçoit les coups, en gros, on va en prison, au cas où. Et il se trouve que Led Belly, il n'achète pas à la règle. Hein. Très, très tôt, il va en prison. Alors, il a fait plusieurs séjours déjà en Louisiane, hein, pour des peccadilles, on va dire. Mais sa première grosse accusation, c'est une accusation de meurtre, hein, quand même. Donc voilà, on est en 14, au cours d'une altercation entre buveurs. Hein. Mmh. C'est toujours un peu les mêmes techniques. Hein. C'est en gros, ils se disputent à propos de femmes et tout en buvant, et il y en a un qui meurt et c'est Led Belly qui va en prison. On verra ça. Ça arrivera plusieurs fois dans sa vie.
C'est un petit peu le truc. C'est un peu le genre de mec qui a tendance à être toujours au mauvais endroit, au mauvais moment finalement.
Voilà. Mais bizarrement, il est condamné à un an de prison à cette époque-là. Bon, il avait déjà fait plusieurs petits séjours. Là, il est condamné qu'à un an pour meurtre. Mais bon, voilà. Peut-être que les juges avaient fait leur travail entre guillemets en voyant que c'était peut-être pas lui qui l'avait tué, etc.
Alors en fait non, je crois que la première fois c'est pas vraiment pour moi, c'est pour avoir transporté un pistolet.
Alors ça, c'est encore avant, oui, même, parce qu'il y, y a eu ça. Parce qu'en 14, c'est pour moi. Mais de toute façon, oui, ça, ils l'ont chopé avec un pistolet, en gros. Donc ça suffisait pour le faire condamner. Et il rencontre à sa sortie de prison un certain Blind Lemon Jefferson.
Blind Lemon Jefferson.
Voilà, qui est un bluesman célèbre. Je ne sais pas si ça te parle, Ludo. Voilà.
Du tout, non.
Voilà, bon, un grand bluesman en tout cas, avec qui il se lie d'amitié musicale et avec qui il commence à jouer un peu plus sérieusement, on va dire, parce qu'il a eu déjà plusieurs groupes dans lesquels il jouait de l'accordéon ou de la guitare. Mais là, il lui fait découvrir la guitare 12 cordes, qui deviendra vraiment son instrument fétiche avec la marque Stella.
Enfin, exactement. Voilà.
Et j'ai des guitares particulièrement grandes en plus là, avec un long manche, etc. Mais lui, comme il est balèze, on n'a pas l'impression que la guitare est si grande que ça. Mais si, si, elle est très grande, c'est compliqué. Voilà.
Pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est simplement que toutes les cordes sont doublées pour avoir un son plus harmonieux.
Voilà, il y a 12 cordes et il les joue en ce qu'on appelle l'open tuning, c'est les accords ouverts. C'est vraiment, voilà, ça donne vraiment une ampleur au son parce qu'il y a beaucoup de notes et ça fait tout de suite très nourri comme son.
Son premier, il va pas y rester longtemps en prison le premier coup parce qu'il s'échappe.
Non, oui, alors voilà. Alors,
il est condamné en fait au chain gang, c'est cette espèce de truc américain là, où vous avez des forçats, des prisonniers au bord de la route qui cassent des cailloux avec des chaînes aux pieds. voilà, donc en fait, il est condamné à ça pour son séjour et puis il y reste pas longtemps parce qu'il se barre, il se carapate.
Alors ça, si je puis me permettre, alors déjà c'est peut-être une légende, formatée par qui on verra ensuite. On l'abordera plus tard dans la mission qui a un peu construit la légende de Led Belly, en plus de lui-même. Mais ça, c'est son autre séjour en prison, celui de 1918, où il y a la légende comme quoi il serait échappé. Parce que c'est compliqué avec Led Belly, c'est déjà de se retrouver dans les morceaux, qui sont de lui, pas de lui, repris, enregistrés quand, on sait pas trop. Mais ses séjours en prison, c'est tentaculaire aussi. Donc il y en a plusieurs, en gros, dans les années 10. Il y en a un en 14, soi-disant pour meurtre. Et il y en a un autre, effectivement, à nouveau un rival qui l'abat pour une femme, quelque chose dans le genre, hein, voilà, en décembre 17, et il va en prison en 18, et donc la légende dit qu'il s'est évadé malgré ses chaînes, effectivement, qu'il a réussi à partir. Et là naît un petit peu la légende aussi sur son surnom, on en a parlé, alors il y a plusieurs raisons, il y a le physique, éventuellement. Il y a le fait qu'il soit couillu, comme on dit, hein, voilà, par exemple, s'évader d'un pénitencier avec des chaînes et tout, voilà. Il y a le fait qu'il aurait pris réellement du plomb dans le ventre, hein, tout simplement, ou qu'il en aurait mis à ses adversaires.
Exactement. Et il y a aussi sa fâcheuse consommation, sa fâcheuse habitude à consommer l'alcool, et notamment le moonshine. Le moonshine, c'est cette espèce d'alcool de contrebande qui est fait dans le sud des États-Unis, une espèce de torboyau infâme qui, lui, ne le rebutait pas en tout cas et qu'il consommait avec probablement plus que de raison.
Voilà, pas de modération donc.
Le fait de s'échapper, ça doit être vraiment une légende parce que si à l'époque il s'était échappé.
Non, c'est pas une légende. On sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est échappé.
Il aurait été recherché.
Mais qu'il a été recherché, il s'est caché. Il a même changé de nom parce qu'à un moment, il s'est fait appeler Walter Boyd.
Voilà, et ça expliquerait.
Et d'ailleurs, un autre de ses séjours en prison, il le fait sous le nom de Walter Boyd. Voilà, donc ce qui expliquerait un peu pourquoi. Alors c'est super compliqué parce que, au-delà du fait que même s'il est mort en 1949, et qu'il reste peu de témoignages vraiment écrits, je pense que c'est quand même quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bagou et qui a eu tôt fait de lui-même se construire sa propre légende en plus des autres.
On l'a dit, à l'école il était plutôt pas mauvais, tout ça, on voit que musicalement il est bon, il était hypermnésique. C'est-à-dire qu'il avait une capacité à mémoriser les choses. Voilà, il entendait un morceau, bah il reproduit. Il entend les paroles une fois, il les connaît par cœur. Il peut les transformer éventuellement. Enfin, c'est quelqu'un qui était quand même intelligent, qui avait des grandes capacités intellectuelles et qui a su en jouer au moment où il fallait, soit pour arranger la légende, la réalité, soit pour se faire gracier de temps en temps, comme la légende dit qu'il s'est fait quand même gracier plusieurs fois, c'est peut-être aussi parce qu'il a bien su négocier les choses et qu'il était souvent libéré pour bonne conduite, tout simplement, parce qu'il apportait de l'aide aux prisonniers, aux gouverneurs, aux directeurs, aux gardiens.
On va en parler, puisque quand il se fait incarcérer en 1918, il prend
30 ans, là ça devient lourd.
Exactement, il prend 30 ans de prison et alors on verra plus tard qu'il sort en 1925, je crois.
Oui, ça. Il sort au bout de 7 ans.
Alors, comment passer de 30 à 7 ans? Eh ben, un jour de la musique pour le patron.
Pour la fille du patron, non?
Alors non, c'est pour, non, là, c'est pour le grand patron. C'est pour le grand patron. C'est même pas le patron de la prison, c'est le gouverneur.
C'est le gouverneur du Texas qui s'appelle...
Patnef.
Schwarzenegger, quoi.
Patnef, et c'est soi-disant ça. Qu'il aimait bien la musique, Patnef, tout ça, et qui serait venu voir la merveille en prison. Et, qui, voilà.
Et
du coup...
Et même revenu.
Voilà,
et même
Led Belly lui a écrit un morceau, voilà, carrément, comme ça, au moins.
Pas con non plus, Led Belly. C'est dit. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il jouait pour les gardes le soir, là, truc, sympa, je vais faire la musique, les gars. Le gouverneur a entendu parler de cette merveille musicale. Du coup, il est venu voir une fois. Led Belly, pas con, lui a dit, je vais vous écrire une chanson. Il lui a écrit une chanson. Le gouverneur est revenu avec des amis, il faisait des soirées, des pique-niques, des choses comme
en
ça.
Prison,
c'est cool, ça. C'était pas exactement la même époque aussi.
Enfin, ouais, et puis c'était pas non plus les pénitenciers,
Il a fait plusieurs types de pénitenciers, ouais. Voilà, il a fait des vrais, de durs pour les récidivistes. Il a fait des trucs un peu souples. Et après, tu disais, il n'a pas pu s'évader, tout ça, sans être recherché. Faut se souvenir déjà, les États-Unis, c'est une fédération, donc entre les États, il y a des frontières quand même, ça compte, notamment au niveau des juridictions, police, justice, etc. Mais à l'époque, c'était encore plus vrai.
Oui,
et là,
l'Union,
tout
l'Union
se passe
était
dans une zone frontalière, Louisiane-Texas.
Voilà.
C'est vraiment... il a pu passer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un en fonction des événements et ne pas être recherché dans l'autre État, parce que tout simplement, il n'est pas recherché dans l'autre État.
Et parce que les lois sont différentes d'un état à l'autre, donc du coup ça lui permettait de bénéficier un peu de cette discrétion
en continuant à semer le trouble, ou en tout cas en ayant des problèmes. Un peu plus tôt, on l'a pas dit aussi, est-ce que c'est une légende, j'en sais rien, il a été expulsé d'une ville carrément. Il habitait dans la petite ville de Lee, et c'était à l'époque où il était adolescent encore, ou jeune adulte. Il jouait dans les cabarets, tout ça, accordéon, guitare, mais aussi dans les bordels, et il a fini par se faire expulser par les habitants qui disaient qu'ils voulaient pas de lui sur place, quoi. Donc bon, ça, il colporte avec lui une légende avant la légende qui est déjà lourde à porter et qui, quand on le voit arriver, soit on se planque, soit on le dénonce. Donc ça aide pas.
Ouais, alors en cours de route, évidemment, il a aussi eu un deuxième enfant avec une femme qui n'est pas la sienne. Voilà, un enfant qui est né quand il est en prison, ce qui fait que finalement il s'en occupera pas trop, mais par contre il divorcera
de
sa première épouse, et puis on verra que
enfants il en a peut-être eu d'autres d'ailleurs, lui-même n'était peut-être pas au courant, hein, parce que
et ce qui est marrant c'est que sur cette histoire, par contre, ce qui est vrai, c'est que le gouverneur Patnef avait fait une promesse quand il a été élu, celle de ne pas gracier de condamner, et que pour Led Belly, il reviendra sur sa promesse puisqu'il va le gracier et qu'il ne fera que 7 ans de prison au lieu de 30 qui lui étaient promis.
Voilà, et selon une autre version, donc ces 7 ans de prison, c'était tout simplement la peine incompressible. Donc sur une peine de 30 ans, il y avait 7 ans incompressibles. Bonne conduite, libéré au bout de 7 ans. Donc voilà, où est la légende?
Où est le vrai, où est le faux?
Est-ce qu'on a retrouvé cette chanson?
Cette chanson,
qu'il a écrite pour...
Ah oui.
Il
a réenregistré plus tard. Parce que là, c'est une époque où il n'enregistre pas. Époque où déjà la qualité des enregistrements sont vraiment faibles, surtout pour ce type d'enregistrement, parce qu'à l'époque, il n'y a guère que la musique classique et des embryons de jazz qui sont enregistrés. Mais c'est des chansons qu'il rejouera toute sa vie, finalement, et qui feront partie des centaines de morceaux réenregistrés avec des paroles un peu différentes, des musiques un peu différentes au cours de sa carrière. Mais on va peut-être en écouter un, justement, morceau, avant de passer à la suite. Un très connu, Midnight Special, et on reste dans l'univers de la prison, parce que le Midnight Special, en fait, c'est le nom d'un train qui amène les prisonniers à minuit.
Trying to lose my man, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven-loving light on me. When it gets up in the morning, when that big bell rings, goes a march to the table, you meet the same old thing, not in talking room or table. Ain't nothing in my pain. Never said a thing about it. Have a trouble with the man, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven-loving light on me. If you ever go to Houston, boy, you better walk right, and you better not squawk.
trouble. And you better not fight, Bat Brocker will arrest you. Pitney Boom will take it down. You can bet your bottom dollar that you're Sugarland bound. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me. Well, jumping little Judy, she was a mighty fine girl. She done brought jumping to the whole round world. Well, she brought it in the morning. Just a wild day. But she brought me the news. And my wife was dead. That started me to grieving. We've been hollering and crying. Then I began to worry. About my great long time. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a heaven loving light on me.
Allez, Fab, c'est un morceau qui a été écrit par Creedence, ça.
Mais non, moi je te le dis en tant qu'animateur des Doigts dans la Reprise, c'est bien une reprise. Creedence a bien repris le morceau, comme d'autres d'ailleurs, beaucoup
plus. Ouais, beaucoup. Finalement, ce morceau était de nombreuses fois.
Voilà, repris. Mais on en parlera à la fin parce que le comment dire,
l'héritage
est absolument énorme, direct ou indirect d'ailleurs, ça sera l'occasion de.
Ce qui est fou, c'est que Led Belly, finalement, pas grand monde le connaît. Et pourtant, s'il n'avait pas existé, la musique, l'histoire de la musique aurait peut-être été changée.
D'autant que, comme on le disait un peu tout à l'heure, et on le redira, ce n'est pas un bluesman à la base, c'est plutôt un chanteur folk qui s'est mis au blues, quasiment par défaut, mais qui faisait aussi du gospel, qui s'est intéressé au jazz, qui a été repris par les premiers rockers. Enfin, c'est assez universel aussi musicalement. Donc, il a pu être repris par vraiment toutes sortes d'artistes, à chaque fois en croyant que c'était vraiment une chanson écrite pour ce style-là.
Et quand on parle de sa guitare à 12 cordes, c'était aussi quelqu'un qui jouait énormément d'instruments. Il jouait du piano, il jouait de l'accordéon, de la guitare. Enfin, elle a utilisé.
Et il a fait des enregistrements seul, a cappella aussi, en s'accompagnant, en tapant du pied ou des mains. Enfin voilà, il a fait du slam.
C'est un véritable homme orchestre, presque du rap en fait.
C'est grand corps malade, c'est lui.
C'est ça.
Avec du plomb dans le ventre.
Avec du plomb dans le ventre.
C'est pour ça qu'il est malade.
En attendant, il sort de prison.
Voilà. Alors après la prison.
De toute façon, il rentre ou il sort.
C'est
un moment où il rentre ou il sort.
Cette émission est rythmée par les rentrées et les sorties de prison de Led Belly. Donc là, il en sort. Ça n'a pas duré.
Donc 1925.
Il sort de prison, il redevient musicien. Alors il trouve des boulots à côté parce que forcément, en plus il gagne pas sa vie en tant que musicien, enfin, pas suffisamment en tout cas. Il accompagne des gens, il fait des soirées. Enfin voilà, c'est un peu un musicien de mariage, hein, des choses comme ça. C'est pas une star du tout.
J'ai pas eu Led Belly à mon mariage.
Non, c'est dommage.
Est-ce qu'il y avait des stars à cette époque? Je sais même pas. Hein.
Il y avait des stars locales. Il y avait des stars en Louisiane, des stars du Texas, des stars. Mais effectivement, lui il commence à avoir sa petite renommée, pas nécessairement que musicale d'ailleurs, parce que c'est pas fini. Il retourne à Morningsport, donc son lieu de naissance et là où est restée la famille, pour travailler dans une compagnie une raffinerie. Dans cette ville-là. Et puis, il trouve une autre femme avec laquelle il a un enfant. Mais la fidélité, c'est pas non plus sa qualité première. Et donc, la dame qui s'appelle Era Washington va même jusqu'à lui exploser une guitare à la gueule. Parce qu'elle était pas totalement contente, quand même, tout de même.
Et ouais, on peut pas faire n'importe quoi. Hein.
Voilà. Et puis en janvier, on est en 1930, il arrive quand même à être calme relativement pendant 5 ans. 1930, il est arrêté donc à Morningsport pour. Alors, ça, c'était les lois Jim Crow américaines de l'époque. Il est arrêté parce qu'il a utilisé un couteau pour se défendre. Mais, noir, sud. Loi de ségrégation, tu utilises un couteau, tu te bats, que tu te défendes ou pas, t'es coupable. Donc qu'est-ce qu'il fait ?
Il retourne en prison.
Eh oui, il retourne en prison.
Il prend 10 ans cette fois.
10 ans, et cette fois, il part dans un pénitencier qui est le pénitencier d'Angola, Angola State Prison, qui est un peu plus sévère que le précédent. Il commence à être connu, à avoir un peu un casier judiciaire, même s'il change, on l'a dit tout à l'heure, il change d'état à chaque fois, mais ça commence à faire ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Le pénitencier, il y restera 5 ans cette fois. Et une nouvelle fois, il sortira. Pourquoi ?
Non, il sort à 25 ans.
4 ans. En 34, il sort.
Ouais, oui, non ouais, non, oui ouais, si, 34. C'est ça, 4 ans, oui. Tout à
fait, oui. Il sort ouais. Parce qu'il aura écrit un morceau au directeur de la prison.
C'est un peu ça. Alors là, c'est pareil, on est sur...
Un autre gouverneur.
On est sur de la double légende, en fait. Ouais. Encore. C'est-à-dire que quand il est en prison, il y a un monsieur qui s'appelle John Lomax, qui est un musicologue, qui est chargé par le Congrès américain de faire un petit peu, de recenser, comme Edward Curtis l'a fait pour les tribus indiennes en prenant ses photos.
Ou Dorothy Lange pour la période de la Grande Dépression aux États-Unis en photo aussi.
Voilà, Alan Lomax avec son fils, c'est John le père.
Alors, John c'est le père, John, et, le père Alan, le
et
fils,
Alan le fils.
Ils travaillent ensemble.
Ouais, donc voilà. John Lomax est chargé par le
par le gouvernement. T'as pas envie de travailler avec ton père, toi, ou...
Pardon, non.
Est chargé par le gouvernement de faire un petit peu un tour d'horizon de la musique américaine. Alors ils écument un peu les coins un peu sombres et les pénitenciers pour essayer de trouver. Des gens,
c'est bien connu, c'est là que sont les musiciens.
Exactement.
C'est plus pour récolter les morceaux d'ailleurs.
Les morceaux.
Ils sont pas en tant que dénicheurs de vedettes.
Non, oui,
c'est
pas
vraiment
du tout, hein.
Pour essayer de capter toutes les chansons traditionnelles qui se chantent un peu partout dans les églises, dans les prisons, dans
génial,
les chants,
ça.
Dans les voilà. Bas, pour faire un inventaire
de la musique,
de la musique
c'est,
populaire.
C'est qui limite ethnologique en fait. Hein,
c'est d'ethnomusicologues. C'est vraiment leur fonction.
C'est un métier que t'aurais pu faire à l'époque, Fab.
Pourquoi?
Je sais pas, je t'y vois bien.
Ouais, j'aimerais bien.
Ils entendent parler de ce ventre de plomb là, de ce colosse à cette voix si particulière, parce qu'il a quand même une voix assez reconnaissable entre mille. Et ils vont le rencontrer. Et c'est ils vont commencer à écouter ce qu'il fait. Il tombe un peu sous le charme et finalement il décide de l'enregistrer. Ils font plusieurs enregistrements en prison de Led Belly. Alors d'abord sur une espèce d'appareil avec des disques en étain, je crois, c'est ça.
Oui,
hein.
C'est une sorte d'enregistreur mobile que leur a filé le gouvernement pour faciliter la tâche. Quoi.
Voilà. Et puis ils finissent
c'est
par
pas
faire
du MP3.
Non, c'est pas du MP3.
C'est baladeur.
Et ils finissent par faire même des enregistrements beaucoup plus sérieux, beaucoup plus propres de ce que fait Led Belly. Et par se dire, quand même, ce mec est croupi en prison, c'est quand même pas très cool. Et ils font une pétition qu'ils envoient au gouverneur. Entre-temps, Led Belly a écrit une chanson pour le gouverneur qui s'appelle OK Alan. Vu que c'est son nom. Hein.
Et OK, c'est les
initiales
prénoms, en fait,
de son prénom.
Les initiales de ses deux prénoms.
Voilà. Gouverneur, donc la chanson s'appelle Gouverneur OK Alan. Voilà. Et alors, la rumeur dit que les Lomax font un enregistrement de cette chanson. Il la donne au gouverneur en disant, voilà, c'est bien, il a fait un truc pour vous, ce serait bien de le libérer. La légende veut que le gouverneur acquiesce en disant, oui, c'est très bien, c'est beau, c'est magnifique, je le libère.
Alors pas aimer la musique, celui-là.
Alors que celui-là, oui, il est censé s'en foutre complètement.
La réputation de...
Bon, en fait, il semblerait que le jour où ils ont voulu donner le disque au gouverneur, le gouverneur n'était pas là. Ils l'ont laissé sur le bureau à son secrétaire. Ils ont fait une pétition, mais qu'une nouvelle fois, 10 ans, il en a fait 4. Ils ont dit, bon, il n'a pas foutu le bordel en prison. Donc, il semblerait qu'une nouvelle fois, ce serait plutôt pour son bon comportement en prison que véritablement pour le travail de sape effectué par les Lomax, que Led Belly soit sorti de prison.
On sait qu'il a eu le disque, le gouverneur, voilà, ça s'est prouvé, mais on n'est même pas fichu de savoir s'il l'a écouté.
Voilà.
Donc bon.
Et alors?
Et alors il sort.
Mais il sort.
Il sort. Qu'est-ce qu'ils font? Il sort.
Enfin, là, il sort, mais il a passé quasiment plus de temps en prison qu'à l'extérieur, là, à cette époque-là.
Il enchaîne bien, quoi. Il y a une période quand même de 5 ans où il n'y est pas allé. Hein. Attends, entre 25 et 30, et, tranquille.
Alors, il sort.
Il sort,
avec
et
ses deux nouveaux
34.
Amis.
En 34. On est en 34. C'est deux nouveaux amis qui vont devenir ses patrons, finalement, parce qu'ils se rendent compte que le garçon est pétri de talent, mais pétri de problèmes aussi. Donc du coup, il va devenir l'aide de camp entre guillemets des Lomax, leur chauffeur. En même temps, il va enregistrer quelques chansons pour eux, pour leur collection. Et c'est ainsi que ce curieux attelage va partir un peu à travers les États-Unis, mais ça va pas durer longtemps. Et ça, c'est Fab qui va vous le raconter.
Mais on va peut-être écouter un morceau avant
un morceau qui s'appelle John Hardy.
John Hardy was a Negro, and he was a desperate man, and he carried 2 6-shooters. Now I'm gonna sing this song in hitted accordion. He was a desperate little man. He carried 2 guns every day. He shot a man on the West Virginia line. Might have seen John Hardy getting away. Might have seen John Hardy getting away. Now tell me about it. Up on that free stone bridge, and there he thought he was free. Up stepped a man and he caught him by the hands, and Johnny come and go with me. Oh, Johnny come and go with me. Tell me about it. Mother and a father too. He sent for them to come and go his bail, and there was no bail allowed for the murdering man. The sheriff John Hardy back in jail. The sheriff John Hardy back in jail. Now talk to me.
Allez, c'est la bonne franquette, celle-là.
On censure l'accordéon, donc.
Ouais, j'aime pas trop, moi.
C'est une dédicace pour toi, Ludo. On sait que t'adores l'accordéon. J'essaye
de faire des efforts, Fab, mais définitivement, ça me pose problème, cet instrument.
Pourquoi?
Mais... je sais pas, c'est le son, la tonalité. J'aime pas.
Même quand c'est Led Belly.
Même quand c'est Led Belly.
Tant pis. Mais bon, on arrête.
C'est fini, on s'en va.
Non, il n'y aura plus d'accordéon dans les autres morceaux.
Il en faut pour tous les goûts. Hein.
Ça ne sera pas l'instrument dominant pour les autres morceaux.
Plus trop, on dit.
John Hardy, c'est qui, John Hardy?
L'ami de la famille, sûrement.
Je sais pas trop. Je sais pas, oui, le copain de Laurel.
Ouais. C'est peut-être son poissonnier.
Peut-être, on sait pas. Ou peut-être le poissonnier de quelqu'un à qui il a repris le morceau aussi.
Ouais, aussi bien.
Voir le frère du poissonnier de quelqu'un à qui il a repris le morceau.
Ou peut-être personne, finalement.
Ou peut-être pas, oui. Ouais, c'est un nom assez courant, on va dire. Mais bon, voilà. On peut pas tout savoir.
Et ouais. Donc là, on est en 34-35, c'est ça?
On est en 34-35. Donc, il est sorti de prison. Il est devenu homme à tout faire des, j'allais dire frère Lomax, non, père et fils, Lomax père et fils,
oui, Lomax.
Qui le prennent sous son aile et qui vont essayer, entre guillemets, lui faire une carrière un peu plus standard que les séjours en prison et les concerts dans les bouges. Mais ça va pas se passer exactement comme prévu, pour plusieurs raisons. Alors, on l'a dit quand même, il enregistre plusieurs centaines de morceaux déjà en prison. Après, il l'amène à New York. Là, il en enregistre un peu plus proprement d'autres. Mais le succès ne prend pas. Et il y a un autre truc qui bloque un peu, dont Led Belly s'en ouvrira par la suite. C'est qu'en fait, ils avaient peut-être aussi un peu une attitude, je prends des pincettes pour le dire, John et Alan Lomax, un peu paternaliste. Genre, on a d'autres bons noirs, on va le montrer. C'est un peu la marionnette. Notre bête de foie, et s'il n'a pas tué,
D'autant qu'ils ont beaucoup joué de ce côté un peu rédemption.
Exactement.
Et du fait que c'était un peu grâce à eux qu'il a été sorti de prison, parce qu'il leur avait, c'était eux qui avaient fait une pétition, qui avaient enregistré le disque pour le gouverneur, etc., etc. Et ils ont vachement joué de ça aussi, donc je pense que ça a dû un peu peser
Et comme ils deviennent, surtout le père John, producteur de Led Belly, ils lui font faire un peu tout et n'importe quoi. Alors, on est bien avant le colonel Parker et Elvis, mais ça peut ressembler à ce genre de méthode.
C'est un peu ça, ouais.
C'est-à-dire, ils lui font faire un film, ce qui en soi, lui, lui plaît beaucoup. Il aurait voulu être acteur, en fait. C'est un de ses rêves secrets un peu inabouti, même s'il a fait quelques embryons de films. Il joue dans un film, mais bon, il joue un bagnard, quoi. Donc voilà, Lomax, il convoque la presse, tout ça, il devient une chose médiatique, vraiment, il est un peu connu, hein, New York.
Il y a même cette légende qui veut qu'un jour les Lomax l'auraient fait monter sur scène à un abri de prisonniers, là.
Les rayures, tout ça. Donc bon, c'est voilà. Il a la chance, entre guillemets, ou la malchance pour lui, d'être l'objet d'un gros article dans Time, le grand magazine américain, qui à l'époque était encore plus gros, 3 pages quand même, et où il est présenté
dont une page en couleur,
en couleur, ce qui était rare à l'époque.
Grande photo de lui en couleur.
Mais ouais. Où le titre laisse songeur, à savoir, c'est Le méchant nègre devient un gentil troubadour. Et là aussi, c'est un peu ça structure la
terrible,
légende,
hein.
Parce que c'est un peu les Lomax qui ont répondu à l'interview autant que lui. Chacun y a mis sa part de vérité et de rumeurs et de légendes. Et c'est à partir de ce genre d'article qu'on a pu essayer de voir quand il avait été appelé Led Belly, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait fait avant, les séjours en prison et tout. Et en fait, tous les biographes après qui ont essayé de recouper les informations, ils sont heurtés à un casse-tête monumental. Parce qu'il n'y a rien qui correspond à rien, jamais. On ne sait jamais où exactement la vérité. On l'avait dit, même pour la date de naissance, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il a fallu consulter les chiffres des recensements des années suivantes, à savoir les années genre 1900-1905. Et il se trouve que sur un recensement, il apparaît comme né en 88, et sur l'autre comme en 89. Donc déjà, il y a un gros problème, même pour la date de naissance. Alors vous comprenez bien que pour la
Par exemple, sur son départ en prison en 1930... Il explique plein de trucs différents, en fait. Et notamment, Lomax, il leur explique qu'il était seul contre 6, qu'il s'est battu seul contre 6, et que c'est pour ça qu'il allait en prison. Mais en fait, il confond, parce que c'est pas sur cette bagarre-là qu'il est parti en prison, qu'il a été jugé, c'est sur une autre. Enfin bref, il y a pas mal de trucs, notamment sur Internet, parce que il y a finalement très peu de témoignages directs. Mais
oui, en plus, les témoignages directs, ils inventent ce qu'ils veulent.
Et les témoignages directs sont tellement partie prenante de la chose qui créent vraiment une histoire autour de ça.
Par exemple, dans le papier de Time dont parlait Fabien, il y a sa femme, donc, puisqu'il en a retrouvé une autre, qui a priori, c'est plutôt la bonne, celle-là.
C'est celle qui va
l'accompagner jusqu'à la fin de ses jours. Qui est présentée comme son agent, finalement. Voilà.
Mais parce qu'elle-même est chanteuse. Voilà. Et il se produira sur scène avec elle. Ce qui complique un peu la chose aussi pour mettre des frontières claires et nettes. D'ailleurs, John et Alan Lomax, on le verra tout à l'heure, il leur en voulait pour le côté un peu paternaliste, etc. Il leur doit quand même beaucoup. Et ils viendront le chercher quand même ensuite quand il aura à nouveau des problèmes. Donc c'est à la fois des amis, des producteurs, des exploitants, des...
Ils ont une relation très compliquée parce qu'en fait, il va bosser, grosso modo, il va bosser 6 mois avec eux avant de se fâcher. Il se fâche complètement, à tel point que les Lomax le renvoient chez lui. Il lui donne quand même les dividendes de ce qu'il aurait gagné. Donc alors, c'est l'équivalent de 20 000 dollars, je crois, ou de 200 000 dollars, pardon. L'équivalent de 200 000 dollars. D'aujourd'hui, la somme qu'il reçoit.
C'est énorme pour l'époque.
Je crois que c'est. Je sais plus, c'est 200 ou 20 000, je sais plus. Enfin bref.
Après, on est dans les années 30. Hein.
C'est pour ça, donc, 200 000 dollars.
Ouais, mais bon, la monnaie est dévaluée, donc ça veut peut-être rien dire.
200 000 dollars d'aujourd'hui. Hein.
Oui, là c'est beaucoup.
voilà. Mais alors, je sais plus si c'est 200 000 ou 20 000, je vous avoue que j'ai un petit doute. Mais ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils ne les donnent pas à Led Belly, il les donne à Martha. C'est bien dit, parce que si on les donne à Led Belly, il va aller les boire, donc du coup, voilà. Donc c'est elle qui le cadre un peu. Mais il se fâche à mort avec eux, à tel point qu'il leur fait un procès. Et en même temps qu'il leur fait un procès, je crois qu'il use 3 ou 4 avocats pour ce procès-là, pour essayer de récolter de l'argent. Mais en même temps qu'il a lancé une action contre les Lomax, 6 mois après, il leur écrit pour dire « En fait, les gars, on n'est pas qu'on retravaille ensemble, qu'on fasse des trucs. »
Et eux, en même temps, continuent d'exploiter sa musique, plus ou moins. Enfin, voilà, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et après, il y a des erreurs peut-être de stratégie aussi, d'une certaine manière, parce que bon, on l'a dit, ils sont ethnomusicologues, les Lomax à la base, ils sont là pas pour produire, même s'ils produiront plusieurs artistes, et tant mieux parce qu'ils les feront connaître. Mais on l'a dit, il vient du folk plutôt, Led Belly, et il a découvert le blues entre-temps. en prison, ils ont enregistré du blues. Et là, quand ils sortent de prison, ils enregistrent surtout du blues pour ces enregistrements, pour une fois, pour un label un peu national, avec une diffusion nationale. Et il se trouve qu'à cette époque-là, c'est totalement passé de mode, le type de blues de Louisiane qu'il fait. Et c'est pour ça aussi que ça fait un peu un four. Donc, il leur en veut peut-être aussi un peu du fait que ça n'a pas marché. Et eux aussi, peut-être s'en veulent même d'avoir mal misé au mauvais moment, et ils repartent vers autre chose, alors que lui n'a rien d'autre, donc il ne peut pas repartir vers autre chose.
Et en même temps, il a une certaine lucidité, parce qu'il l'aurait déclaré, à John Lomax, « Si je n'avais pas été si ivre, j'aurais pu gagner des millions de dollars aujourd'hui. »
Voilà, et donc à la place de ça, finalement, donc, comme il se brouille, il quitte New York et il revient en Louisiane, en tant qu'anonyme, pauvre, avec sa femme, alors un peu plus rangée, un peu plus voilà, mais totalement méconnue. Et il arrive quelque chose, une histoire de couteau et de beuverie. Ça vous parle ou pas?
Parce que ça me dit un truc.
Ça vous dit quelque chose, hein? Alors bon,
ça me dit un truc.
Là, on se dit à ce moment-là l'histoire. Bon ben, couteau, beuverie, il va en prison, hein? On se dit ça.
Ben oui.
Eh ben non, pour une fois, il y a une surprise. Il évite la prison de justesse, a priori, selon la légende, encore une fois, parce que là, la peine, elle commençait à être assez lourde. Mais en fait, il est jugé pour ce qu'il a fait, quand même, à savoir, là, je crois que ça doit être un meurtre, hein. Il se bat au couteau. Alors
il se bat au couteau,
si...
je crois.
Ouais, voilà. Et en fait, il est laissé en liberté sous caution. Et pendant qu'il est en liberté sous caution, il se trouve dans une boutique quand il y a un braqueur qui pénètre et demande la caisse. Et lui, comme il est braqué, il s'interpose et arrive à maîtriser le braqueur. Ce qui fait qu'au procès, bon, c'est toujours un peu mieux, quoi, pour plaider son cas.
Eh oui.
Et qu'il va pas en prison, pour une fois, il y va pas.
Oui, non, mais c'est... En plus, c'est ce coup-là où, en fait, il est en prison parce que quand il rentrait chez lui, il y avait toujours des gens qui l'embêtaient. Il disait, donne-nous du whisky, donne-nous de l'argent. Et un jour, il en a eu marre, il emplâtrait un type où il a sorti un couteau. Hein. Je crois que c'est sur celle-là, non?
Alors là, je sais plus. Des fois.
Hein. Peut-être ça c'était à New York.
D'ailleurs, je viens de réaliser, il va quand même en prison, mais très peu de temps. Parce que là, on est en 39 et il sort en 40.
Ouais, donc, c'est ça.
Voilà. Et en gros, il devait choper 20-30 ans et là, il sort au bout d'un
moins d'un an.
Ce qui fait que là, c'est pas pour bonne conduite, c'est clairement le procès qui a fait qu'il a eu une peine très légère.
Mais il va quand même un an.
Il y va.
Mais par contre, ce qui se passe aussi, c'est que Alan Lomax, qui est le fils de John Lomax, qui a 24 ans à l'époque, là décide du coup de le reprendre sous son aile, et puis l'aider pour les dépenses d'avocat, etc.
Mais on va peut-être en parler dans la prochaine partie et écouter un autre morceau qui vous parlera peut-être, parce que ça évoque peut-être un film pour ceux qui aiment la moto, Easy Rider.
Done. Easy rider, see what you've done. You made me love you, now your man come. Hey, have you catch me stealing? Tell on me, catch me stealing, please don't tell on me. I'm stealing back in my old time you be. Swimming in a deep blue sea.
if I was a catfish swimming in the deep blue sea. If I was a catfish swimming in the deep blue sea. Hey, 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 hey. I was done all you women diving after me. Start all you women diving after me. I'ma start all you women diving after me.
Easy Rider, traduction Fab.
Eh ben, Easy Rider, je sais pas, le baladeur
facile.
Facile, hein, voilà.
Le baladeur facile.
C'est compliqué à traduire réellement avec une expression française qui soit appropriée quand même.
Ouais.
Le mec, il est cool, quoi, il se balade.
Ouais, il se balade,
facile.
À moto. Easy.
Ou pas. Ou pas, à moto, ou pas. À la base, c'est pas forcément une moto, hein, non, c'est le film.
Il était en vélo.
En moto.
Bon, alors la prison, il ressort au bout d'un an, c'est fini maintenant, il se range, il se range pas.
Ouais, qu'est-ce qu'il se passe? Il est plutôt rangé.
Ouais, il commence à avoir de la bouteille aussi, il commence à avoir de l'âge.
Ça, ça, la bouteille, il connaît, ouais, ça, je te confirme.
Bah, selon les dates de naissance, à cette époque-là, il a quand même 50 ou 55 ans, ou voilà, mais c'est pas un genou. Et surtout, à cette époque-là, l'espérance de vie est quand même, surtout vu la vie qu'il a eue, pas très élevée.
Pas très très élevé. Pourtant, il va commencer à avoir, du succès pour lui-même cette fois. Enfin, voilà, pas pour sa musique, pas pour ses frasques. Il va commencer à faire des tournées, à gagner de l'argent. Alors, il gagne pas suffisamment d'argent pour tout le temps vivre de sa musique. Il gagne pas suffisamment d'argent pour être une rockstar, enfin comme on peut l'entendre aujourd'hui. Mais ça lui permet de subvenir à ses besoins, de devoir faire des petits boulots de temps à autre, mais plus ou moins de vivre décemment, en tout cas de ses talents musicaux, des talents qu'il va partager, parce que il enregistre notamment sur une émission qui s'appelle le CBS Radio Show. Qui est une émission musicale sur les radios radio américaines, où notamment il va enregistrer avec quelques-uns des plus grands de l'époque comme Woody Guthrie, Brownie McGee, Sonny Terry, qui sont des vrais musiciens très connus de l'époque. Woody Guthrie, on va pas vous le présenter.
Non, on va pas le faire.
Voilà. Donc il commence à sortir aussi des albums, à l'époque c'est pas vraiment des albums, mais il commence à sortir des titres de son côté,
des disques thématiques, il fait un disque pour les enfants, un disque pour de chansons de prison, un disque de chansons d'église, un disque de
c'est plus des
collections thématiques, quoi, des compilations.
Ouais. Il enregistre aussi des sessions pour une maison de disques qui s'appelle Capitol Records, qui est une des plus connues des États-Unis et déjà à l'époque. Et puis il commence à sortir aussi les enregistrements de la Bibliothèque du Congrès, qui participe aussi au fait que Led Belly commence à sortir, à devenir connu dans le grand public. Pour autant, ses plus gros succès, et notamment on écoutera tout à l'heure
Good Night Irene.
Il va pas en profiter parce qu'il sortira après. Il sortira après sa mort.
Ouais, on dit que c'est son plus grand succès.
Son plus grand succès. C'est pas de lui, hein, puisque Good Night Irene, c'est son oncle qui lui a appris, et donc son oncle qui l'avait appris lui-même et qui lui a transmis. Mais c'est effectivement lui qui l'a popularisé. Il va même être le premier musicien de country et de blues américain à s'exporter hors des frontières américaines, puisque puisqu'il va faire une tournée et notamment il va venir en France au cours de cette tournée.
Aller en Europe, effectivement, ce qui était très rare à l'époque, très surtout rare. Pour un musicien noir de ce genre de musique. Il y avait des jazzmen un peu qui allaient, mais c'est tout. Et il trouve un nouveau mentor aussi un peu à cette période-là, en la personne de Moses H, qui le sort un peu, entre guillemets, des griffes des Lomax aussi, parce que en gros, Led Belly s'ouvre et lui dit moi, les tenues de bagnard sur scène, ça va, quoi. Et lui, il lui fout un smoking. Oui, moi, le blues, blabla, ça va. Ok, bah, tu refais du folk. Je t'introduis à Greenwich Village. Je te présente aux gens. Et il s'est accoquiné, effectivement, avec tout ce qui est Woody Guthrie, Pete Seeger, qui était tout jeune à l'époque. Enfin, tout jeune, qui était moins connu, en tout cas, etc. Et dans le circuit folk new-yorkais, ça a commencé à prendre. C'est pas un truc d'audience nationale, etc. Mais il y avait quelque chose avec les gens qui s'échangeaient un peu les chansons traditionnelles comme ça. Et c'est l'époque de ses peut-être meilleurs enregistrements déjà, parce qu'en qualité sonore, ça aide d'avancer dans le temps plutôt que les enregistrements des années 30. Et puis peut-être parce qu'il est un peu plus libéré, un peu plus dans son style, un peu plus. Il joue sur les disques des autres aussi un petit peu.
Oui,
il accompagne Pete Seeger ou autres sur certains disques parce que ils deviennent potes, ils viennent du même type de.
Et c'est un bon musicien.
Et c'est un bon musicien tout simplement. Donc il peut aussi se servir de ça comme d'un métier tout simplement.
Au-delà d'être un bon chanteur et d'avoir une belle voix, c'est aussi un très très bon musicien. Et d'ailleurs il devient un peu la coqueluche des salles de concert new-yorkaises de l'époque.
Et il continue de rêver aussi de faire des films. Mais là, bon, on avait vu qu'avec les frères Lomax, ça s'était pas très bien passé. Il avait fait un film et c'était un film de bagnard. Il essaie de s'exporter à Los Angeles un moment, mais ça passe pas.
Ça passe très très mal. Il reste très peu de temps à Los Angeles. Il fait vraiment juste un aller-retour.
Il revient à New York très vite.
Ouais, un peu la queue entre les jambes parce que il a pas du tout réussi à s'imposer et à imposer ce qu'il voulait. En Californie.
Et puis Los Angeles, musicalement, n'était pas ce que c'est devenu plus tard aussi. Les centres névralgiques de la musique aux États-Unis ont beaucoup bougé avec le temps. Et là, dans les années 40, finalement, c'était peut-être pas Los Angeles qu'il fallait le faire. Donc, surtout pour un noir qui fait du blues folk.
C'est vrai que c'était peut-être pas le meilleur
choix.
C'est
la vie du cinéma, ça, depuis longtemps. Mais bon, voilà. Bon, cette carrière-là, en tout cas, il a raté. On va peut-être écouter un nouveau morceau, justement, Luc en parlait.
Goodnight Irene, qui est donc sorti officiellement en 1950. Et qui a,
soit un an après sa mort.
Un an après sa mort.
Bonne nuit, Irene.
Bonne nuit.
Ask your mother for you. She told me that you were too young. I'm sorry, ever was born. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene. I guess you in my dream. Sometimes I live in town. Sometimes I have the great notion to jump into the river and drown. Irene, good night. Irene, good night. I get you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. Go home to your wife and your family. Sit down by the fireside bright. Good night, Irene, good night. Good night, Irene, and good night, Irene.
cotton holes I do. I love her till the sea runs dry. If I return to back on me, I'm gonna take morphine and die.
Allez, bonne nuit, Irène.
Ou bonne soirée.
Bonne soirée. Hein, exactement.
Au choix.
Donc ce morceau posthume.
Posthume, mais alors, bon, il n'est pas totalement mort là, on ne l'enterre pas trop vite.
Ouais.
On va parler de sa fin, il est mort de quoi déjà, hein? Bon, il était malade, il était malade. Âgé pour l'époque en tout cas. Je ne sais plus le nom exact de la maladie.
Le syndrome de Gehrig.
Voilà.
Gehrig.
Le syndrome de
Gehrig.
Voilà, et ça s'appelle une sclérose latérale amyotrophique.
En fait, c'est une maladie qui petit à petit, il détruit les muscles.
Voilà.
Quand on est grand baraqué, qu'on joue de la guitare, c'est quand même pas facile. Mmh. Et c'est une maladie qui lui a été d'ailleurs diagnostiquée
quand on est quoi que ce soit, c'est pas facile. Hein.
C'est vrai que c'est pas facile. C'est une maladie qui lui a été diagnostiquée quand il est venu à Paris pour sa tournée en Europe.
Il est vite reparti d'Europe, en fait. Et vite reparti, vite mouru. Parce que le 6 décembre 1949, il s'éteint de...
Ça,
de...
par contre, on en est sûr. Niveau des dates,
voilà, pour une fois... Voilà, à l'hôpital Bellevue, à New York, le 6 décembre 1949. Voilà. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'avait plus trop de sous. Sa femme non plus. Donc apparemment, ils avaient même des difficultés à trouver de l'argent pour payer l'enterrement. Et ce qui fait que sa femme a demandé au Lomax, encore, de toucher une partie des droits, tout ça, ou de les rétrocéder pour pouvoir payer l'enterrement. Donc il a pu avoir quand même une pierre tombale, etc., sur laquelle il y a une date de naissance d'ailleurs, hein,
qui est différente, en fait,
mais qui n'est pas encore fait qu'un
erreur. Alors la date de naissance qui est sur sa pierre tombale, c'est celle qu'il avait donnée pour sa conscription en 1940, quand il s'est engagé dans l'armée, quand il y a eu la guerre et que tous les Américains avaient été recensés. Donc il avait donné celle, je crois que c'est 85 d'ailleurs. Je crois que c'est 23 janvier 85.
49, donc il meurt à.
Il a 60.
Soit il est né en 85, soit en 88, soit en 89. Donc après, il faut faire le calcul. Quoi.
Ouais. Dans les 60 ans, quoi.
Ouais, entre 60 et 65. Voilà,
pour l'époque, avec.
C'est pas trop mal, ouais.
C'est pas trop mal. Ouais.
Et donc la femme, elle va voir Moses H aussi, donc son dernier mentor, pour récolter des sous. Et voilà. Enfin bref, elle obtient un gain de cause. De toute façon, les deux ont continué, Moses H et les frères Lomax, d'exploiter le catalogue. Voilà. Ouais. Bon, après, c'est comme ça. Et puis c'est eux qui ont co-signé certains titres. On l'a dit tout à l'heure.
Ce qu'on n'a pas dit et dont on parlait quand on écoutait la chanson Goodnight Irene, c'est que dans sa production, à une époque, notamment dans les années 40, Led Belly a fait, et là cette fois il a signé ses propres chansons. Là, on en est sûr. Et notamment parce qu'il incluait pas mal de références à l'actualité du moment, et donc il a signé une chanson dans laquelle il parle de Roosevelt, et une autre qui s'appelle
Hitler Song,
donc où il parle clairement d'Adolf Hitler
éventuellement.
Rock nazi,
voilà,
c'est
Gainsbourg,
chose.
C'est autre chose effectivement, et puis c'est moins contemporain, on va dire.
Ouais.
Mais bon. Enfin bref, il meurt.
Enfin, il meurt, oui.
Il meurt, c'est triste, tout ça. Ceci dit, tout de suite, mais vraiment, dès qu'il est mort, il y a la nouvelle scène folk de Greenwich Village, qui étaient ses amis, donc Pete Seeger, Woody Guthrie, etc., qui lui rendent tout de suite hommage et qui enregistrent même un album hommage direct à Led Belly. Voilà, ce qui est quand même assez rare, surtout pour les gens qui n'étaient pas forcément très connus. Et de fil en aiguille, ces chansons qui ont été reprises du coup par Pete Seeger, Woody Guthrie, les Weavers, etc., sont reprises par d'autres, et ça nous amène à des gens certes méconnus comme Dave Van Ronk. Je sais pas si t'en as entendu parler. Le film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis.
Il est méconnu.
C'est adapté de sa vie, Dave Van Ronk, qui a lui réécrit et a réarrangé une version de House of the Rising Sun qu'on a passé tout à l'heure, qui sera reprise par son pote Bob Dylan, ou plutôt volée par son pote Bob Dylan, parce qu'il lui avait dit « tu l'utilises pas comme ça », et il a dit « ouais, d'accord », et puis le lendemain, il s'est rendu compte qu'il avait enregistré tel quel et que l'album était sorti. Et les Animals, ils piocheront cette version-là, avec ces paroles-là, etc. Enfin, bref.
Hendrix, non? Il a pas.
Hendrix a repris,
aussi, je pense.
Oui, bon, il y a quand même pas mal de monde, hein, ouais. Donc Frigid Pink, entre autres, méconnu. Mais voilà, tout ça pour dire que très vite... Il y a une paternité indirecte, un héritage musical indirect qui se fait par des passeurs comme ça. Ce qui fait que Led Belly n'est pas très connu aujourd'hui, mais son héritage persiste, c'est qu'il y a vraiment eu des passeurs. Et on en parlait Goodnight Irene, avant d'aborder plus les hommages, etc. avec Luc. Goodnight Irene devient un tube au lendemain, c'est une image, hein, de sa mort, repris tout de suite par des gens comme Frank Sinatra, etc. Donc ça devient un tube sous sa propre interprétation, son seul qui rentre l'équivalent d'un top 50 de l'époque, mais aussi ça devient des tubes avec d'autres gens, mais immédiatement, quoi, qui reprennent la version rétrécie, allongée, rapide, lente, etc. Dans toutes les langues, il y a une version en France, en Espagne, etc. Mais
est-ce qu'on sait si sa pauvre veuve avait encore des droits sur les chansons de Led Belly à l'époque?
On sait pas trop.
On sait pas trop. Et puis, c'est vrai qu'elle a eu besoin d'argent pour l'enterrement. Elle a peut-être cédé, justement, comme ça se faisait à l'époque.
Je vous cède cette chanson, bim.
Ouais, alors... Même les contrats disques, justement, on parlait d'Inside Llewyn Davis. Il y a une scène qui est marquante dedans sur comment ça se passait les contrats à l'époque, même si c'est un peu plus tard, c'est au début des années 60. On voit celui qui interprète le personnage inspiré par Devon Dronk, qui est un peu besoin de sous, et qui a, y a un pote à lui qui dit « Ok, t'as besoin de sous, bah viens faire la guitare sur ma chanson, hop, genre $200 ». Et en gros, le producteur, il arrive et dit « Bah écoute, soit je te donne $200, mais je te les donne que dans 3-4 mois, machin, tout ça, il faut signer des papiers, t'es pas à jour, t'es pas net, machin, soit je te donne $500 tout de suite et tu cèdes les droits sur la chanson ». Et le mec, il a besoin de fric, il prend le fric. Et après, la chanson, en revanche, il touche plus jamais rien et il est même pas crédité sur les disques et autres. Bon, donc il y a plein de gens comme ça qui ont enregistré sans toucher de sous.
Il faut savoir qu'en cours de route aussi, avant que Led Belly meure, John Lomax meure, et notamment le dernier concert de Led Belly, et qui était en plus avec sa femme, c'était un hommage, un tribute à John Lomax. Voilà, donc du coup, il reste plus le père, il reste que le fils. Au niveau des droits, je pense que c'est un peu compliqué. Et puis, c'est pareil, les trois quarts des chansons sont créditées. Alors, très peu sont créditées A Deal at Better. La plupart sont crédités A Deal at Better et John Lomax, ou A Deal at Better, John et Alan Lomax, ou John et Alan Lomax.
Ou un autre nom, quand on connaît avec chance un éventuel créateur.
Alors que tu mets McCartney Lennon, voilà.
Ouais,
tu le sais que Ringo Starr, il a rien.
C'est un peu non, c'est rien, parce que bon, malheureusement, s'il y a McCartney Lennon, c'est peut-être Lennon tout seul. Ou McCartney tout seul.
Exactement.
Et même les premiers titres de la carrière solo de Lennon et McCartney sont signés McCartney Lennon, comme Give Me a Chance, auquel McCartney n'a même pas participé.
Alors d'ailleurs, je suis obligé de parler des Beatles, parce qu'on peut pas faire d'échelle, là.
L'échelle Beatles.
Bah si, l'échelle Beatles, qui est une
Bah ils étaient nés, ils étaient tous nés quand il est mort, hein. Il y en a deux qui sont nés en 40, un en 42 et un en 43. Donc, voilà, ils étaient enfants. Et ils ont été inspirés, comme tous les autres, par Led Belly, indirectement, par des reprises d'autres bluesmen ou autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et ils ont même repris directement un titre qui est censé être de lui, enfin qui est un peu connu et qui a repris Johnny Cash notamment, c'est Rock Island Line. Voilà, dans leur jeune carrière à Hambourg ou autre.
Et puisqu'on parle de reprise, est-ce qu'on ferait pas une traduction?
Une traduction. Mais est-ce qu'on n'écoute pas la chanson d'abord avant de traduire?
Si, on va écouter
s'appelle,
la chanson.
Alors selon les pareils, c'est toujours compliqué de s'y retrouver dans les chansons de Led Belly. Bah des fois c'est appelé Black Girl, et des fois c'est appelé In the Pines, et des fois c'est appelé Where Did You Sleep Last Night.
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pines, where the sun don't ever shine. I was shivering all night too. My girl, where will you go? I'm gone where the cold wind blows. Where's that, baby? In the pines, where the sun don't ever shine.
I wish you would. Oh, not you. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I wish you would. Oh, not you. Shiver for me now. What happened down there? My husband was a hard-working man, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body ever, never been found. My girl, don't you lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on and tell me something about it. In the ponds, where the sun don't ever shine. I bet you will, oh, not to.
Elle me dit quelque chose, cette chanson.
Ah bon?
J'ai dû l'entendre par d'autres artistes.
Où as-tu dormi la nuit dernière?
Traduction Fabien.
Ma chérie, ne me mens pas. Dis-moi où tu as dormi la nuit dernière. Dans les pins, là où le soleil ne brille jamais. J'ai frissonné toute la nuit, ma chérie, où vas-tu aller? Je vais où souffle le vent froid, dans les pins, où le soleil ne brille jamais. J'ai frissonné toute la nuit. Son mari était un mordu de travail, à environ 1 mile d'ici. On a retrouvé sa tête dans un volant, mais on n'a jamais retrouvé son corps.
C'est beau, hein?
Voilà.
Ce qui explique des années de prison.
Eh oui, c'est possible.
C'est possible, hein, voilà.
Voilà, et donc, effectivement, cette chanson, elle est connue parce qu'elle a été reprise sur le fameux MTV Unplugged de Nirvana, donc un album de 1993, dans lequel elle est introduite par ces mots de Kurt Cobain, qui dit que Led Belly est son chanteur, leur chanteur préféré, et qu'il avait demandé à David Geffen, donc le propriétaire du label Geffen, d'acheter la guitare de Led Belly. La fameuse Stella pour Kurt Cobain. Il lui avait demandé. Voilà, donc ça fait partie des nombreuses reprises de Led Belly.
Et il lui a acheté ou pas?
Je sais pas s'il l'a acheté.
Vous balancez des anecdotes sans fin.
C'est pas une anecdote, il le dit dans
je
le.
Je crois que Kurt Cobain finalement l'a volé et il est allé en prison.
Je crois que Kurt Cobain est mort.
Ah non.
C'est une histoire de plomb.
Il le dit directement dans l'album, hein, ça s'en s'entend.
C'est vrai que Nirvana a aidé à justement mettre en lumière cet artiste aussi, hein, parce que
tout à fait.
Mais ça a commencé bien plus tôt.
Alors déjà, Kurt Cobain avait déjà repris cette chanson Where Did You Sleep Last Night avec Mark Lanegan quelques années auparavant, mais les histoires de reprise de Led Belly, c'est une longue histoire. Alors, ça a commencé dans les années 50, déjà par Goodnight Irene, qui a de suite été repris à peine sorti.
Donc ça, on l'a dit, Sinatra, tous ses amis de Greenwich, etc.
Voilà, exactement. Alors, The House of the Rising Sun, qui est probablement une des plus connues aussi, reprise, elle est Animals,
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday.
entre autres. Bob Dylan, enfin bref.
Comment elle s'appelle? Nina Simone.
Nina Simone, oui.
Muse, beaucoup plus tard. Oui. Voilà. D'autres, les Beach Boys ont repris
Cottonfield.
Cottonfield.
Plus surprenant.
Ils ont repris Coconuts aussi.
aussi. Creedence Clearwater Revival, Cottonfield aussi, et Midnight Special, on l'a dit tout à l'heure. Elvis Presley, Abba, Pete Seeger.
Abba, oui, ils en ont pris deux mêmes dans le même album. Harry... C'est dur.
Ouais,
c'est très dur.
Ça fait mal.
Ah, bah, c'est déjà rien que de le savoir, moi je.
Harry Belafonte, The Animals, Johnny Cash, Bob Dylan.
Il y a aussi une reprise très 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 célèbre d'un morceau qu'on n'a pas entendu, mais qu'on va entendre tout de suite après, parce que ça va vous parler. C'est le groupe Ram Jam. Je ne sais pas si ça parle pour vous.
Bah, ils ont qu'une chanson.
Ils ont qu'une chanson.
C'est ça, c'était oui, mais c'est une chanson de Led Belly, quoi.
C'est ça. C'est...
On continue la liste. Hein. Tom Petty, Ray Cooder.
Ah, Tom Petty and The Heartbreaker.
Grateful Dead.
Les Rolling Stones, ça te parle ?
Les Rolling Stones.
Bourgeois Blues, ils l'ont repris.
Ah, ils ont repris Bourgeois Blues. Okay.
Led Zeppelin.
Little Richard aussi, du temps de sa splendeur, qui avait repris Goodnight Irene, lui aussi.
The White Stripes. Nick Cave and the Bad Seeds, qui a repris Black Betty, d'ailleurs.
Après, il y a ceux qui ont fait des variations un peu. Led Zepp, qui a repris Gallis Paul et qui l'a changé en Gallows Paul. Voilà, dans un morceau c'est acoustique ça, ouais. Avec de la guitare slide. Et voilà, c'est un hommage à Led Belly là aussi.
Van Morrison et Tom Waits qui avaient repris donc Goodnight Irene aussi. Ron Sexsmith, dont on a parlé. ah non, on n'en a pas parlé en fait. Si, on a dû en parler dans une des émissions. Rory Gallagher, Nirvana, Ferry, on l'a dit, Red Hot Chili Peppers,
Pearl Jam,
Dick Arnegard, exactement.
Tout le monde l'a repris, quoi.
Bah, beaucoup de gens l'ont repris, beaucoup de gens en ont parlé, l'ont cité Bob Dylan. Bob Dylan a repris des chansons et l'a cité dans une chanson. Dans des chansons. I Am l'a repris, l'a cité aussi dans une de ses chansons.
C'est éclectique.
C'est très éclectique. Il faut dire que Kurt Cobain, notamment, avait dit que Last Session, donc l'album de Led Belly, Last Session Volume 1, était un des 50 albums qui avait le plus influencé la formation de le son de Nirvana.
Des 50, c'est bon, ça.
Ouais, ouais, après, il devait y avoir un hard disk de Neil Young dedans. Ouais, les Meat Puppets.
Non, mais c'est dire quand même les Vaselines aussi. Et peut-être un peu David Bowie, je ne sais plus.
Et il a aussi indirectement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, dans l'héritage direct, enfin indirect mais très précoce, il y a eu Goodnight Irene, donc qui a été très vite repris même par des crooners, tout ça, mais dès les années 50 aussi, ça a été marquant pour le mouvement du skiffle, je ne sais pas si tu te rappelles, le skiffle, Lonnie Donegan, tout ça, qui était une star en Angleterre, qui a donné quand même naissance aux Beatles, accessoirement. Ils ont fait du skiffle au début, les Beatles.
Ouais, moi, j'en fais l'hiver surtout, du skiffle.
C'est une sorte de rockabilly sur acoustique. Neige. qui est genre avec les moyens du bord, genre la contrebassine, voilà, et des morceaux assez rapides. Et les Beatles faisaient ça au début. Ils étaient fans de Lonnie Donegan et Lonnie Donegan reprenait du Led Belly et arrangeait du Led Belly en mode skiffle.
Tout est lié.
Donc, voilà. Tout est lié et on l'a vu. Enfin, le nombre de musiciens qu'il y a eu et autre symbole aussi. Il est quand même entré au Rock and Roll Hall of Fame en 88, dès le début. Au Rock and Roll Hall of Fame, en tant qu'artiste blues folk, c'est pas mal déjà.
Ouais, alors que maintenant il y a des blues Hall of Fame, des folk Hall of Fame.
Oui, voilà. Bon, il est dans tout ça. Il doit être même dans le country Hall of Fame.
Country.
Jazz Hall of Fame.
Je crois qu'il est même dans le classic Hall of Fame et le hip hop Hall of Fame.
Il est très Hall of Fame.
Il faut dire qu'au final, quand on fait le décompte, si tant est qu'on puisse faire un décompte, je crois qu'officiellement, on compte quelque chose comme 500 chansons écrites ou interprétées, enregistrées, signées de Led Belly. Ce qui est plutôt pas mal, ce qui veut explique aussi pourquoi...
J'en ai fait un peu moins, par exemple.
Oui, pareil, voilà.
Comme ça, pour juger.
Ce qui explique aussi peut-être pourquoi il a influencé autant de monde. Il a même écrit une chanson sur le Titanic en 1912, c'est dire... voilà, qui rencontre
toi, non.
Qui raconte l'histoire.
Tu sais quoi en 1912, tu ne te sentais pas concerné?
Qui raconte l'histoire d'un noir champion de boxe qui ne peut pas prendre le Titanic parce qu'il est noir.
Ben oui.
Voilà.
Et qui est devant un public blanc, il changeait un peu pour ne pas parler du type en question, parce que sinon c'était pas trop bien.
Il risquait d'aller en prison.
C'était un des rares noirs aussi qui très vite a eu un public blanc. On voit les évolutions de carrière. Au tout début, il joue dans des bouges en Louisiane et la clientèle est mixte, on va dire. Après, il a tout un public uniquement noir. Puis après, il est au Texas, il n'y a plus que des blancs.
Il est en prison.
Puis
après.
À nouveau des noirs. Et puis quand il est à New York, dans Greenwich Village, il n'y a plus que des blancs, enfin, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment mélangé.
Voilà, c'est mélangé. On va écouter encore un petit extrait. Fabien vous a défloré le nom tout à l'heure. C'est Black Betty.
Oh, Black Betty. Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, Black Betty, Black Betty, Bamba lamb, Black Betty, Black Betty, Bamba lamb, jump sturdy Black Betty, Bamba lamb, jump sturdy Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, looky on a Black Betty, Bamba lamb, looky on a Black Betty, Bamba lamb, turn around Black Betty, Bamba lamb, jump down Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, Black Betty had a baby, Bamba lamb, Black Betty had a baby, Bamba lamb, little thing went crazy, Bamba lamb, little thing went crazy, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, jump steady Black Betty, Bamba lamb, jump steady Black Betty, Bamba lamb, look at yonder Black Betty, Bamba lamb, look at yonder Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, little thing went blind, Bamba lamb, a little thing went blind, Bamba lamb, the city wasn't none of mine, Bamba lamb, the city wasn't none of mine, Bamba lamb, what about it, Black Betty, Bamba lamb, what about it, Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, oh Black Betty, Bamba lamb, look at yonder Black Betty, Bamba lamb, jump steady Black Betty, Bamba lamb, run yonder Black Betty, Bamba lamb, turn around Black Betty, Bamba lamb, eh Black Betty, Bamba lamb, eh Black Betty, Bamba lamb, look at yonder Black Betty, Bamba lamb, run around Black Betty, Bamba lamb, jump down Black Betty, Bamba lamb, turn around Black Betty, Bamba lamb, eh Black Betty, Bamba lamb, eh Black Betty, Bamba lamb.
Voilà, un morceau a cappella, on en parlait tout à l'heure, Fab, un morceau a cappella.
Ouais, accompagné
tout
juste...
Tout à fait, mais tu as peut-être une explication sur ce qu'est Black Betty.
Voilà, le Black Betty qui était un alcool qui était consommé souvent par les personnes new-yorkaises à cette époque-là, ou peut-être en Louisiane, je sais plus. Et après, il me semble que le fond de la bouteille était noir, et donc d'où le Black Betty. C'est, et là, donc, il explique, j'ai fini la bouteille, je vois le fond de la bouteille, etc. Toujours lié à l'alcool.
Jolie bouteille, sacrée bouteille.
Voilà.
C'est ça, si tu nous écoutes.
Hein. En avance sur son
décompte. C'est un grand chanteur, Graham Allwright, non ?
Non, je parle de l'alcool.
Ah, pardon.
Ah oui, mais si on raconte l'histoire de Led Belly.
C'est formidable, effectivement. Et qui lui-même a dû reprendre du Led Belly.
Oui, bah, qui n'a pas repris du Led Belly ?
Non, j'ai pas repris du Led Belly, je crois.
Moi, j'ai repris deux fois, une fois.
Linda de Suzanne n'en a pas repris, et il faut savoir que...
Tu sais pas. T'as vérifié ?
Pas.
Elle finit sa ville avec 400 euros par mois.
Elle a besoin d'argent.
Elle a besoin d'argent. Donc je lance un appel à tous les auditeurs.
Plutôt que de faire Je suis Charlie là, et de tous s'abonner à une revue que pour certains vous allez vomir ensuite parce que vous avez jamais vu ça et ça vous convient pas du tout.
Donnez de l'argent à Linda de Souza.
Et en plus vous empêchez les gens qui lisent d'habitude d'acheter le numéro parce qu'ils en trouvent pas.
Appelez Linda de Souza. Appelez les dons.
Je suis Linda.
Voilà.
Ou donnez-nous à nous.
Et on lui transmettra, c'est ça.
Je suis Rock'n'Roll Diaries.
Je suis Rock'n'Roll Diaries.
Je suis Blues and Folk Diaries. Je suis.
C'est déjà fini.
Oui. Je suis Led Belly. On en est au conseil.
Alors, appeler conseil.
Conseil. Mais ça se vend, Led Belly.
Conseil et l'annonce de la prochaine émission. Ça s'achète.
Ça s'achète.
Ça se trouve difficilement.
Ça se vend, comme disait je sais plus qui à propos du Journal de l'Humanité, mais c'est une autre époque.
Ça se trouve. Maintenant, ça s'achète plus. Ça se vend plus.
Mais non. Si ça se trouve. Après, voilà, si vous êtes dans une ville où il y a une bonne médiathèque, parce qu'on nous écoute en podcast aussi en dehors de la Lozère, sachez que la plupart des médiathèques quand même cultivent un fond entre guillemets traditionnel avec country, blues, folk, etc. Des artistes qu'on trouve un peu moins dans les Fnac en gros, et ils ont du Led Belly au moins sur des compilations. Donc voilà, de toute façon vous commencez par une compilation, j'allais dire quelle qu'elle soit, peut-être pas, mais
de toute façon il n'y
a pas vraiment d'album, c'est tentaculaire, et puis comme tout est tombé dans le tout est libre de droit maintenant, c'est tellement vieux, et déjà les morceaux étaient libres de droit plus ou moins. N'importe qui peut sortir une compile de Led Belly du jour au lendemain avec une nouvelle pochette et changer l'ordre des titres ou voilà, donc, et il y avait des versions différentes selon qu'elle est enregistrée en 35, en 43, c'est la même chose.
Donc les conseils pour Led Belly avec 500 titres,
c'est trouver une bonne compile, quoi.
Ouais, il y a Moses H qui a sorti récolter un peu tous les morceaux de Led Belly,
plus ou moins, si vous pouvez trouver enregistrement des années 40, voilà. Si vous voyez la date dessus, plutôt viser les années 40, donc, déjà pour la qualité du son.
Ouais, il y a une compile donc en trois volumes qui est sortie chez Smithsonian Folkway fin des années 90, Donc il y a, c'est Lead Belly Legacy, volume 1, 2 et 3. Le premier s'appelle Where Did You Sleep Last Night. Le deuxième c'est Bourgeois Blues et le troisième c'est Shout On. C'est grosso modo, c'est voilà, c'est un peu
l'essentiel.
L'essentiel. Il y a un film.
Oui, en 76, qui est sorti. Alors, je ne sais pas s'il est trouvable en DVD. Je ne l'ai pas vu. Il paraît qu'il est
pas
trop
sur sa vie. Sur sa vie, ouais.
Alors, on ne sait pas combien de séjours de prison il fait dedans. Non. Plus, moins.
Il devrait en ressortir un, je pense, dans pas longtemps. Vu cette.
C'est vrai que ça peut.
C'est vrai que c'est le genre de truc. On verrait bien si Forest Whitaker était un peu plus grand en taille.
Exactement. Je pense
c'est parfait dedans. Mais bon, il a déjà fait Charlie Parker.
Ouais, mais c'est pas mal.
Il
ne
peut pas multiplier les rôles de.
Sinon, il y a Will Smith.
De biopic musicien. Mais ouais, Will Smith.
Il a fait Mohamed Ali.
Ouais, en même temps, il était crédible en Ali. Donc,
et c'est vrai. Pas, hein. Voilà, il y a des enregistrements. Il y a un enregistrement live, mais alors qu'il date de 73. Qui est sorti en 73.
L'édition.
Tu me fais peur, Luc.
Qui a été, c'est le fameux enregistrement en hommage à John Lomax en 49, le dernier concert de Lead Belly. Après c'est un peu compliqué à trouver parce que mis à part comme disait Fabien dans une médiathèque qui a un bon fond musical.
Il y a Internet
il y a la librairie du Congrès américain sur lequel je pense qu'il y a plusieurs enregistrements qui peuvent être trouvés. En cherchant bien, on trouve un site où sont recensés tous les enregistrements et tout le travail des Lomax. Donc forcément, alors ce travail ethno-musical, plus que que leur travail de manager, on est d'accord. Voilà. Après,
vous pouvez trouver quelques morceaux sur des bonnes compiles de vieux blues ou de vieux folk, les trucs qu'on sort maintenant en triple ou quadruple CD parce que c'est libre de droit et ça coûte pas cher à faire. Il y a toujours du Lead Belly dessus, donc vous aurez au moins Good Night Irene, Rock Island Line et un autre. Voilà, vous en aurez deux trois. C'est une bonne introduction et puis ça permettra de connaître surtout les artistes qu'il y a autour parce que ça permettra de connaître Robert Johnson, Blind Lemon Jefferson et toutes sortes de bluesmen ou de folk des années 20, 30, 40.
Il y a un bouquin, une biographie qui est sortie aussi dans les années 90, fin des années 90, mais qui est tout en anglais et je crois pas qu'on puisse la trouver en France.
Après, pour avoir une bonne partie de sa vie aussi et puis pas viser des trucs trop volumineux ou trop compliqués, il y a c'est un dictionnaire du blues. Alors je sais plus comment il s'appelle exactement parce que c'est pas son c'est la grande encyclopédie du blues de Gérard Herzhaft chez Fayard qui consacre un bon chapitre quand même à Lead Belly. Et à d'autres, encore une fois, ça permet d'en connaître d'autres. Et il y a une dans la collection livres BD, enfin BD musique plutôt. Je sais pas si vous voyez cette collection, c'est une collection avec des BD de forme très rectangulaire. Dedans, il y a deux ou trois disques. Et ça raconte l'histoire du musicien en question. Ils en ont fait sur le jazz, sur le blues. Il y a même eu chansons françaises avec Edith Piaf et autres. Ça permet de voilà de s'introduire. Souvent, c'est des enregistrements que d'une période ou voilà, mais quand même. Et puis il y a la vie qui est racontée en BD. Et ça s'y prête particulièrement. D'ailleurs, il y en a une qui est sortie sur Robert Johnson récemment, une BD qui est très bien aussi. Donc comme quoi, voilà, comme on est en période BD, un peu en janvier là.
C'est vrai.
Ok, super les gars.
Voilà ce qu'on avait à dire sur Eddie Ledbetter, ventre de plomb.
Voilà. Alors il faut savoir que pour la prochaine émission, vu que pas la prochaine mais celle d'après, on compte faire une grosse émission. On a besoin de plein, pas mal d'informations. Donc Fab va partir se renseigner à Coconut.
C'est pendant ça. 2 mois.
J'en ai 2 mois à Coconut.
Donc, aller sur la plage pour rencontrer des garçons.
Pour le mois prochain, on va voir Dave. Dave va le remplacer. Alors, je sais pas ce que ça va donner.
Je ne sais pas du
Luc,
tout.
Mais bon, écoute.
Ça dépend le sujet en même temps.
Ça dépend le sujet. Mais justement, on va écouter cette chanson de pour Dave. Le prochain artiste. Parce de que... Dave en plus.
Ah bah, c'est Dave. Dave. Si c'est Dave, c'est parti.
Si c'est Dave, c'est Dave. Dave Grohl. Exactement. Allez, merci à tous.
Bonne soirée.
À bientôt. Ciao.
Bonjour.